Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir adoré l'épisode avec Frédéric Lopez, le 112, pour ceux et celles qui souhaitent l'écouter ou le réécouter. Et Fred, il était allé avec Thomas Pesquet chez les Indiens Kogi. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, je reçois Éric Julien, qui est le fondateur de Chendukua, qui est une association qui aide les Indiens Kogi. C'est un géographe et il s'est beaucoup intéressé à comprendre notre civilisation à travers le regard d'une autre civilisation. C'est assez rare et unique de pouvoir échanger avec une civilisation native, racine, et de regarder notre civilisation, de comprendre finalement la manière dont on vit à travers le regard d'autrui. Il n'y a pas d'autre manière ou d'autres meilleures manières pour le faire. Donc c'est un épisode qui est vraiment passionnant parce qu'il nous questionne, il nous permet de déconstruire des choses qui nous semblent évidentes, logiques et qui en réalité ne le sont pas du tout. Par exemple, de vivre dans un pays où il peut y avoir des guerres ou l'importance du rôle de l'argent, etc., etc. Je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé vraiment incroyablement intéressant. Allez, venant. C'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Je voudrais vous poser une question pour commencer qui est quasiment une question, je dirais, pas compliquée, mais en tout cas étonnante en ce moment. Et je voudrais vous parler du mot enthousiasme. C'est quoi la racine du mot enthousiasme?
Alors c'est un mot qui vient de loin et qui aurait voulu dire ou qui voudrait dire quelque chose comme traversé par Dieu. Mais comme Dieu est un petit peu connoté, en fait, on peut très bien le remplacer sans souci par traversé par la vie. En fait, être enthousiaste, c'est être reconnecté à la vie en soi. Et quand on arrive à être dans l'enthousiasme, on est dans la joie, on est dans une forme de légèreté. Et peut-être qu'on arrive à aborder les problématiques genre crise, par exemple, d'une manière un peu plus sereine.
Et c'est vrai que quand vous dites traverser par la vie, on a tendance à parler du mot environnement sans forcément réaliser que cet environnement, c'est nous. C'est comme si on parlait de notre corps et qu'il était à l'extérieur de nous. Il y a un peu de ça aussi, non, quelque part?
En fait, c'est comme si on vivait dans des petites boîtes. On vit beaucoup dans nos têtes, on est coupé de notre corps, notre sensation, on est très mental. Hein. Et puis ensuite, la deuxième petite boîte, c'est qu'on vit beaucoup en ville. On est à 85% des urbains dans les pays entre guillemets, dit développé. Et après, il y a encore une autre grosse boîte qu'on vit beaucoup dans nos croyances. Donc en fait, on est des gens enfermés un petit peu dans des petites boîtes. Et si on voulait retrouver le chemin de l'enthousiasme, il faudrait peut-être oser soulever les couvercles des trois petites boîtes.
Alors vous êtes allé à la rencontre d'un peuple racine, ou en tout cas d'une autre civilisation que sont les Indiens Kogi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris majoritairement, ou peut-être comment vous les avez rencontrés, et qu'est-ce que ça vous dit de la manière dont on vit nous aujourd'hui?
Alors, comment je les ai rencontrés? J'étais jeune, j'étais gentil, j'avais 25 ans, je sortais de formation qu'on appelle les grandes écoles où on vous serine que vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc quand on vous le serine pendant plusieurs années, vous finissez par y croire. Et on m'avait dit, au nord de la Colombie, à la plus haute montagne du monde, en bordure de mer, quand on est au sommet, paraît-il, on voit la mer des Caraïbes en bas, donc c'est 5900 mètres et 40 km plus bas la mer des Caraïbes. Donc à 25 ans, j'étais guide de montagne, j'ai voulu aller voir, vivre cette expérience. Et j'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, c'est de l'eau dans les poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous pouvez même plus vous mettre debout. Vous avez plus qu'à attendre de l'eau dans les poumons, ça gagne dans le corps, et vous n'avez plus qu'à attendre de vous noyer de l'intérieur. Et donc, j'étais perdu dans ma montagne sans évidemment aucun moyen de secours. Et j'ai eu la chance que ces Indiens, là, Kogi, ces sauvages, comme on les appelle, ces archaïques, ces primitifs, ces autochtones, on a du mal à les nommer, passent par là et eu la gentillesse d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire et me ramassent, me mettent sur une mule, me recueillent, me soignent et me sauvent la vie. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré ces Indiens. Alors, à l'arrivée des conquistadors en 1524, on estime qu'il y avait 1,5 million d'Indiens Tairona à l'époque, les ancêtres des Kogi actuels. Aujourd'hui, il en reste à peu près 25 000. Et en fait, ce serait la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si on pouvait discuter avec des Incas, des Mayas, des Aztèques, sans forcément dire ils ont tort ou ils ont raison, c'est pas le problème. Mais on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, ou le regard de l'autre, pour peu que j'aie l'humilité de l'accepter, éclaire mes zones d'ombre, éclaire ce que je ne vois plus de moi. Donc, qu'est-ce que j'en ai appris ? Oh, plusieurs choses. Par exemple, je me suis intéressé, moi je suis consultant dans ma vie de tous les jours, et je me suis intéressé à... Finalement, quand on est consultant, on s'intéresse sur une entreprise à quelle est sa mission, à quoi elle sert. Mmh. Je me suis demandé à quelle est leur mission. Est-ce qu'ils se sont fixés une mission, ces Indiens ? À quoi ils servent ? Et j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est soigner la terre. Voilà des gens qui consacrent une bonne partie de leur agenda, parce qu'au final, tout se résume à notre agenda, c'est-à-dire où est-ce qu'on affecte du temps. Et bien, ils en consacrent une bonne partie à soigner la terre. Et nous, on se rend compte que ne serait-ce qu'arroser les plantes vertes ou avoir un rapport à la terre, au territoire, on n'a pas beaucoup de place dans nos agendas, même une plante verte dans la maison. Et la deuxième mission que j'ai trouvée chez eux, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent tous les jours, c'est pas des... ils ne sont pas nés tranquilles, en paix, avec une petite auréole de saint sur la tête, c'est pas ça. Mais au cœur de leur système éducatif, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors, je sais pas comment vous entendez ça, une société qui se met comme mission soigner la terre et apprendre à vivre en paix ensemble, quand on voit les milliards qu'on dépense pour des armements, et quand on voit les désastres à une époque où plus de 50% de la planète a été artificialisée, il y a plus de matière artificielle que de biomasse naturelle. Voilà, on laissera à ceux qui nous écoutent le soin de regarder qui est sauvage et qui est archaïque.
En fait, quand on entend ça, je crois que la première réflexion qui nous vient, c'est utopique. Parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans notre système de fonctionnement. Donc nous, on l'envisage de manière utopique en se disant, bah, c'est super, mais en vrai, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites, c'est que en fait, chez eux, ça fonctionne. Alors, la question que je me pose, c'est, par exemple, quel rôle ils donnent à l'argent ? Comment ça fonctionne ? Comment on peut être dans une société en paix aujourd'hui, alors qu'on a tendance à penser que l'humain, il a des travers, et un de ses travers, c'est de vouloir avoir plus que son voisin, par exemple.
Bah, une société en paix, il faut déjà le vouloir. Est-ce que nous avons vraiment envie d'entrer en paix ? Je ne suis pas sûr. On a besoin de se construire identitairement ou comme nation contre les autres. C'est un premier miracle que depuis la création de l'Europe, quoi qu'on pense de l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne et la France ne soient pas rentrées en guerre. Mmh. Il faut déjà le vouloir, être en paix. Ensuite, il faut mettre un système éducatif en place qui aide les enfants à traverser leurs émotions, à partager, à coopérer. Et là, on se heurte de plein fouet et frontalement à l'éducation nationale, qui a des valeurs marquées à l'entrée du fronton de ses écoles et de ses collèges et de ses lycées. Liberté, égalité, fraternité. Mais je crois qu'il ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir que serait une éducation fraternelle, c'est-à-dire qu'il travaille la fraternité ou la sororité entre les enfants et entre les élèves. Donc non seulement on ne le veut pas, je suis pas sûr, mais en plus on ne crée aucune condition pour tendre vers la paix. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est traverser nos émotions et traverser nos peurs. En fait, on se rend compte que dès qu'on est soumis à une tension extérieure, une difficulté extérieure, et on l'a vu avec la crise du coronavirus, on a été surpris que ça redéclenche de très belles actions de solidarité face à cette tension extérieure qu'est la crise. On redécouvre une petite phrase d'Anna Arendt qui dit « Les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève ». Donc on a l'impression qu'il faut qu'on soit en insécurité peut-être pour se serrer les coudes et faire face ensemble. Et puis dès que cette contrainte s'amenuise et disparaît, on retourne dans nos travers un peu d'arrogance que le monde est à l'image de ce que nous projetons sur lui. On projette sur lui que la nature, bah, c'est une matière première, c'est un paysage, c'est une esthétique qui est à notre disposition. Évidemment, les peuples traditionnels dont font partie les Kogi n'ont pas du tout ce regard sur le monde.
Et justement, je vous repose la question, mais c'est quoi le rôle de l'argent dans leur système? Comment ça fonctionne?
Il n'y a pas d'argent, volontairement. Ils ne sont pas idiots, ils savent compter. Ils s'en servent un petit peu sur les marges de leur, ce qui leur reste de leur territoire pour négocier des choses avec l'extérieur, mais en interne, il n'y a pas d'argent. Ils considèrent que c'est le pire ennemi de l'homme, parce que s'il y a de l'argent, on peut contractualiser une relation. Par exemple, si je suis dans un village savoyard, il y a un mulet et il y a quatre producteurs de Beaufort, pour ceux qui connaissent la Savoie, dans les années 50 ou avant-guerre, il fallait bien se mettre d'accord avec le propriétaire du mulet pour descendre le Beaufort. On est obligé de trouver des voies de conciliation. Si vous avez l'argent, bah, je peux prendre un avocat, je peux prendre quelqu'un, et finalement, ça ne m'oblige plus à trouver le moyen d'être en relation avec l'autre. Donc, ils ne veulent pas d'argent parce qu'ils considèrent que c'est le pire ennemi, donc ils ont refusé l'entrée de l'argent sur leur territoire. Ce qui est une décision politique intéressante.
Ben ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant parce que en fait, on a l'impression que dans nos sociétés dites modernes, on n'envisage pas ne pas avoir d'argent. Et d'ailleurs, j'écoutais Esther Duflo ce matin qui parlait de justement des vaccins pour le Covid en disant il faudrait le distribuer à tous les pays parce qu'en réalité, s'il reste cette maladie dans d'autres pays, elle va finir par revenir en Europe, donc de manière assez logique de toute façon. Et en même temps, on n'envisage pas que d'un coup, les laboratoires, pas qu'ils les donnent, mais en tout cas qu'ils réduisent les prix et que les États payent pour d'autres États afin que d'éradiquer cette pandémie. On voit tout par le prisme de l'argent finalement dans nos sociétés.
Bon, on est dans un rapport au monde qui a placé le désir en haut de sa chaîne de valeurs, désir de pouvoir, désir de reconnaissance, désir de domination, désir d'acquisition, et qui a placé la nature tout en bas comme une variable d'ajustement. Donc en haut chez nous on a mis le désir, puis après on a mis les outils. Les réseaux, Internet, le numérique, tout ce que vous voulez au service de ce désir. Hein. C'est pas pour rien que les sites Internet pornographiques sont ceux qui ont le plus de connexions. Mmh. Ensuite, vous avez l'homme, qui est une variable d'ajustement après la technologie. Et en dernier registre, vous avez ce qu'on a appelé l'environnement. En fait, les Kogi ont exactement inversé ce sablier. Il y a d'abord la nature, ensuite l'humain comme étant une partie de la nature. Après, pourquoi pas se servir de la technologie, et enfin apprendre à canaliser son désir, apprendre à l'apprivoiser. Alors, il ne s'agit pas de l'éradiquer, une vie sans désir sera assez épouvantable, c'est ce qui nous met aussi en marche, le désir. Le désir d'être connu, le désir de posséder, le désir de combler quelque chose. Mais l'apprivoiser, si on apprenait un peu à apprivoiser ce désir, on aurait peut-être moins d'addiction, et là on en revient à notre éducation, c'est une éducation qui est aujourd'hui incapable d'appréhender ces problématiques. Il y a quelque part derrière un paradigme, c'est-à-dire un système de représentation qui est faussé, qui n'est plus le bon. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre une super contrainte pour changer ce paradigme, cette grille de lecture du monde? Ou est-ce qu'on va être capable de le faire uniquement sur notre intelligence humaine? That is the grosse question.
Entre la contrainte, ouais, non, mais c'est clair que, en fait, j'ai l'impression que les gens voient trop de films comme Mad Max et ils attendent le grand soir de la nature. Il y a cette phrase très connue qui dit il est plus facile d'envisager la fin de l'humanité que la fin du capitalisme. Et c'est étonnant comme cette phrase résonne parce qu'elle est très vraie dans nos sociétés. On préfère envisager la fin du monde, on l'envisage, plutôt que d'envisager de vivre autrement ou de déconstruire nos modes de société. C'est très étonnant.
Ce qui est difficile, c'est déjà d'envisager de faire la paix avec ses voisins, les plus proches, ou en tout cas de faire un dessin de son écosystème, de ses relations, de regarder celles avec lesquelles il y a des tensions et des difficultés, où on ne parle plus parce qu'il y a de la rancœur ou il y a eu de la difficulté, et de se dire comment je peux soigner ça. Moi, je suis fasciné. Les Kogi, ça fait depuis 1524, donc on va arriver aux 500 ans pour les Kogi qu'on leur pourrit la vie. Quand vous lisez les textes de Bartolomé de Las Casas, qui était un religieux jésuite qui a eu une mission d'Isabelle, reine d'Espagne, reine de Castille, pour aller enquêter sur qu'est-ce qui se passait dans les terres conquises. Vous lisez son texte, qui est accessible. C'est digne, en termes de précision, d'un rapport d'Amnesty International. Et les descriptions qui sont faites des tortures qui étaient infligées aux Indiens sont insoutenables. Et ça n'a pas vraiment changé. Encore, il y a encore pas très longtemps, il y a un village Kogi qui a été brûlé pour récupérer des terres pour exploiter une mine d'or qui est juste à côté. Donc ça n'a pas vraiment changé depuis 5 siècles. Et malgré ça, ils nous accueillent et ils nous disent « et si on se parlait ?» Et si il ne s'agit pas de se dire « on est des Indiens parfaits, nous on a tout compris, et vous êtes des civilisés qui cassez tout », ce n'est pas ça l'idée. En fait, ce qu'ils nous proposent, c'est le dialogue. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le meilleur des deux mondes ? Et le dialogue dans l'histoire a toujours été un signe de civilisation, un signe de maturité, un signe de capacité à se dire encore une fois, l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, et ensemble est quand même moins ballot que tout seul. Donc c'est encore ça, après 5 siècles de destruction, ils nous tendent encore la main en disant, et si on se parlait pour imaginer ensemble un destin commun, parce que maintenant on est un peu liés par notre destin commun sur cette petite planète Terre. C'est pas la même démarche qu'on instaure dans l'autre sens, hein. On n'est pas vraiment dans le dialogue.
ils ont quel rapport avec la nature, les Kogi ?
Déjà, la nature, c'est un concept qui n'existe pas, c'est un concept moderne qui a été inventé pour désigner ce qui est autour de nous. Puis de la nature, on est passé à l'environnement, on s'est éloigné, on a quand même créé des ministères de ce qui nous environne, ce qui est quand même pas banal. Eux, ils considèrent qu'ils sont évidemment partie prenante du vivant, de la vie, une forme parmi l'autre. Ce qui veut dire que dans leur structure linguistique, il y a des mots spécifiques pour dire toute forme vivante a un cœur, y compris les pierres. Ça a été une grande surprise pour eux de découvrir que nous, on considère les pierres comme des éléments morts, alors que chez eux, c'est à la base de la communication avec le vivant. Donc toute forme vivante qui s'exprime sur un territoire, donc qui s'exprime dans la nature, un écureuil, un oiseau, un chevreuil, n'importe quoi, est une expression parmi d'autres du vivant. En fait, la nature, c'est l'expression du vivant. C'est pour ça que quand on la regarde, cette nature, on voit des arbres, des nuages, on voit des phénomènes. Mais eux, c'est pas les phénomènes extérieurs qui les intéressent, c'est le vivant qui permet ces phénomènes. Et en fait, quand on commence à rentrer dans leur pensée, on découvre que, sans doute, si on avait l'humilité de discuter avec eux, on ferait des grands progrès en termes d'agroécologie ou même de connaissances agricoles. On ferait des grands progrès en termes de physique quantique. J'irais même jusqu'à dire on ferait sans doute des grands progrès en termes de compréhension, en tout cas d'exploration, de comment la vie est arrivée sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée très précise. Il y a plusieurs théories qui se battent en duel sur la création de la vie sur Terre. Et je crois qu'il y a Jung qui disait « Oh, moi, je ne saurais jamais de mon vivant comment la vie est arrivée sur Terre. » Alors, pourquoi pas s'intéresser à d'autres hypothèses ? Et quand on s'intéresse à l'hypothèse des Kogi sur comment la vie est arrivée sur Terre, elle n'est pas plus conne que nos astrophysiciens. Mais là, ça fait appel à une valeur de la science qui est parfois un peu oubliée, qui est l'humilité. Est-ce que nous allons avoir l'humilité de discuter entre un scientifique dans son laboratoire et une espèce de polyscientifique Kogi, parce qu'ils ont des connaissances incroyables, mais ils ont une question sous-jacente qui nous perturbe un peu, c'est comment savent-ils ce qu'ils savent ? Puisque visiblement, ils ne l'ont pas appris en laboratoire, ni dans des livres, ni dans des amphis, ni dans des universités, mais ils l'ont quand même appris, puisque c'est opératif. On a maintenant la preuve que c'est opératif. Alors ça, c'est un grand mystère. Est-ce qu'on a l'humilité de se dire, y aurait-il plusieurs manières d'apprendre ?
Et ouais, j'adore qu'il y ait des oiseaux qui nous accompagnent en même temps que...
Ils nous soutiennent, ils font...
Exactement.
Ils sont sur une gouttière et ils battent des plumes.
Et justement, en parlant de leurs connaissances, et pour bien permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre de quoi on parle, il y a cette anecdote avec des astrophysiciens que j'aimerais bien que vous nous racontiez.
Eh bien, effectivement, nous avons été invités dans un laboratoire d'astrophysique à Londres par le directeur du laboratoire et un collègue à lui qui était américain, l'astrophysicien américain, qui ont accepté l'idée de, un peu en souriant, de dialoguer avec ces Kogi en tunique blanche et pieds nus. Et ils se sont posé la question de savoir de quoi ils allaient parler puisque les Kogi n'ont pas de satellite, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas